Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Pourquoi ? Parce qu'elles se renouvellent tous les 8 mois. Non, c'est chaque jour que Dieu nous donne de voir ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque matin. Et ce matin, les bontés de Dieu s'est renouvelées envers nous. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur fin. Parce que lui, c'est la bonté même. En lui, c'est la compassion même. Alors Dieu, dans sa bonté, ce matin a renouvelé ces choses envers nous. Tout naturellement. Et nous vivons de la bonté, nous vivons des compassions de Dieu. Elles se renouvellent chaque matin. Et ensuite, il dit ceci, « Oh, que ta fidélité est grande !» Cela se trouve dans le livre des Lamentations, Lamentations de Jérémie, et le chapitre 3, certains le connaissent par cœur parce qu'ils se souviennent à cause de leur état, de leur fatigue, et ils se disent « Non, non, ce qui me donnera de l'espérance, ce qui te donne de l'espérance, mon frère, ma sœur, ce matin, est-ce que tu repasses dans ton cœur ce que ton âme se souvient, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et je veux que tu te le repasses dans ton cœur pour ne pas laisser le découragement, pour ne pas laisser ce que tu vis, pour ne pas laisser ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde gagner ton cœur, te décourager et te faire arrêt, stop, dans la marche avec Dieu. Il faut que tu te souviennes que Dieu est bon. Rappelle-toi cela, que Dieu est bon. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Si les bontés de Dieu se renouvellent ce matin, c'est bien à notre égard. Le monde ne connaît pas Dieu. Nous, nous connaissons Dieu. Dieu nous a fait la bonté de se révéler à nous à travers son Fils Jésus-Christ. Et à travers cette révélation, Dieu nous révèle aussi qu'il est un Dieu qui est bon. Il est bon pour nous. Quoi que tu vis aujourd'hui, Dieu est bon pour toi. Rappelle-toi ceci. Et que ce n'est pas parce que tu lis la Bible, tu pries, tu jeûnes, que Dieu fait renouveler ses bontés à ton égard. Non ! L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Dieu nous aime. Il ne nous aime pas parce que nous sommes ceci ou cela, il nous aime. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les compassions, quand quelqu'un a compassion, il compatit. Il descend. Le bon samaritain, il est descendu de sa monture. Il avait du vin et de l'huile dans ses affaires. Il a manifesté de la bonté. Voilà. Il a manifesté de la compassion à l'égard de cet homme qui avait été laissé comme mort, roué de coups. Et cet homme, ce bon samaritain, descend de sa monture. Voilà. Compassion. Quand on a de la compassion, Dieu descend. Dieu vient et ne pense pas un instant que ce que tu vis est à des milliers de kilomètres de Dieu. Ce que tu vis, Dieu le vit avec toi. Peut-être que tu ne le vois pas comme ça, mais c'est lui qui te soutient. C'est lui qui te porte. C'est lui qui jauge jusqu'où tu peux tenir. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. Et c'est pour cela que Habacuc, il dit ceci, « Je me tiens à mon poste, je suis à mon poste, et ce que je me dis dans mon cœur, ce que je veux repasser aussi dans mon cœur, c'est que si la promesse que Dieu m'a faite, si elle tarde, attends-la, parce qu'elle arrivera certainement. » C'est-à-dire Dieu, quand il nous promet quelque chose, il accomplit pas sa promesse selon les règles que nous lui donnons, nous, à lui. Il accomplit sa promesse selon ses règles que lui a dictées. Parce que la Bible dit qu'il fait toutes choses belles, à quel moment ? En son temps. Dieu a son temps, et il fait toutes choses belles en son temps. Et il dit ceci, Jérémie dit cela, il dit, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire les compassions de la veille, les bontés de la veille, c'était pour la journée de la veille. C'est pour ça que Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire Dieu nous a fait la grâce d'ouvrir les yeux ce matin. On ne sait pas. Je ne sais pas ce que vous avez déjà connu, les nouvelles que vous avez déjà eues depuis ce matin quand vous vous êtes réveillé. Mais Dieu dit ceci, j'ai prévu de la bonté, j'ai prévu de la compassion envers toi, ma fille et mon fils. Quoi que tu puisses vivre aujourd'hui, j'ai mis à ta disposition mes bontés et mes compassions. Alors pourquoi nous allons puiser chez les autres ou ailleurs ce que Dieu a mis à notre disposition déjà? Alors réfléchissons. Dieu a tout mis. Vous savez, Élie, quand il est parti au torrent de Guérite, le matin et le soir, il avait une livraison faite par les corbeaux. Vous vous souvenez de cette histoire ? Dieu a nourri son prophète de la viande. Et Dieu a utilisé dans son humour des corbeaux, des charognards. Cette espèce d'oiseau qui mange de la viande. Et c'est à eux que Dieu a donné cet ordre. C'est merveilleux. Les sauterelles, Dieu parle aux sauterelles. Les sauterelles sortent je ne sais d'où. Ils arrivent en Europe et ils ravagent tout sous l'ordre de Dieu. Vous dites amen ? Parce que Dieu parle aux bêtes. Dieu a cette autorité de parler aux oiseaux, aux cailles. Quand le peuple a réclamé de la viande, Dieu a fait venir un vent et les cailles ne pouvaient pas voler à contre-courant. Ils étaient épuisés, alors ils atterrissaient dans le désert juste devant l'entrée des tentes des Israélites. Il suffisait qu'ils sortent et qu'ils fassent cuire la viande des oiseaux et ils en ont mangé pendant un mois. Pendant un mois, ils ont mangé de la viande. Ils en avaient en horreur. Ils ont voulu tenter Dieu. Comme si Dieu ne pouvait pas faire renouveler ses bontés et ses compassions. Eh bien, ce que Dieu a fait, Dieu leur a montré qu'il tient tout dans sa main. Le Dieu que nous servons, qui est notre Père Céleste, il tient tout dans sa main. Vous entendez ? Il tient tout dans sa main. Ce qui te manque aujourd'hui, Dieu l'a dans sa main. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui fassions confiance. Et que nous lui disons, oui Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu as déjà pourvu, tout est déjà là pour moi. Eh bien écoutez, les corbeaux nourrissaient Élie le matin de viande. Ils arrivaient comme ça. Ils ne mangeaient pas la viande. Pourtant, c'est des charognards, ils aiment ça. Eh bien, Dieu leur a dit, vous irez chercher la viande à tel endroit et vous irez faire la livraison, j'allais dire chronoposte, chronocorbeau. Pourquoi on ne verrait pas sous les voitures chronocorbeau ? Chrétien que tu es, crée ta boîte de transport. Au lieu de mettre Uber Eats, tu mets chronocorbeau et vous livrez à manger. Non mais c'est vrai. Alors ces corbeaux prenaient la viande et ils allaient le déposer jusqu'à côté d'Élie, comme ça. Ils atterrissaient avec leur bec et ils déposaient la viande et ils repartaient. Je ne sais pas si c'était les mêmes corbeaux qui étaient mandatés à cette mission de livraison, mais ceux qui livraient le matin, je ne sais pas si c'était les mêmes que Dieu utilisait pour faire la même livraison le soir. Quand vous réfléchissez, mes bien-aimés, vous voyez pas qu'en Dieu, il y a un pouvoir infini. Et quand il voit qu'on s'inquiète pour des choses. On laisse les inquiétudes, on laisse la peur, on laisse toutes sortes de choses, de craintes venir envahir notre esprit. Mais Dieu, si nous lui faisons confiance, il a déjà tout prévu. Et à cause de notre incrédulité, nous limitons, parce que l'incrédulité ne donne pas la possibilité à Dieu d'agir. Dieu n'agit pas pour l'incrédule. Mais quand Dieu voit qu'il y a la foi, mais une foi aveugle, une foi sans discussion, une foi d'un enfant qui croit, Dieu dit « ça me plaît ». La foi de mon enfant me donne une pleine liberté de manifester ma puissance. Combien parmi nous n'avons-nous pas vécu depuis un moment ces expériences merveilleuses avec Dieu, d'expérimenter les bontés de Dieu, les compassions de Dieu, la fidélité de Dieu. Et pourtant, nous marchons avec lui. Normalement, nous sommes un peuple à part. Nous devons vivre le surnaturel. Nous devons emmener partout où nous allons le surnaturel de Dieu. Pourquoi, quand Jésus faisait un miracle, les gens disaient « c'est sûr que tu as fait ce miracle ?» Et aujourd'hui, même encore les chrétiens, c'est chez les chrétiens qu'on trouve de l'incrédulité. Mais une incrédulité religieuse, cachée, sournoise. Et pourtant, le Dieu Tout-Puissant a un désir dans son cœur, c'est de nous manifester sa toute-puissance. L'Église aujourd'hui que nous sommes la main de Dieu ici-bas. Nous sommes la bouche de Dieu ici-bas. Nous sommes les yeux que Dieu, à travers lesquels Dieu regarde notre prochain. Nous sommes les mains par lesquelles Dieu veut poser, veut guérir. Nous sommes les bouches par lesquelles Dieu veut parler. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes véritablement ces personnes qui disent à Dieu « me voici ». Qui disent à Dieu, voici ma bouche. Je veux que ma bouche soit un instrument entre tes mains. Même si tu penses ne pas pouvoir parler bien le français, ce n'est pas ça le problème. Dieu peut te donner, quand le Saint-Esprit vient sur toi, un français très très élevé. Mais quand tu laisses la chair prendre le dessus, tu as un langage très, très perspicace aussi, très prononcé, très clair pour dire des choses mal. Alors Dieu veut se servir de nos bouches aujourd'hui, de nos yeux, puisque les hommes nous ont mis un masque sur la bouche, mais Dieu dit, ils vous ont pas bouché les yeux. Le virus ne rentre pas par les yeux, c'est par le nez, c'est par la bouche, je crois. Alors ils nous ont mis un masque sur la bouche et le nez, mais ils ne peuvent pas nous mettre un masque sur les yeux. Et encore par les yeux, quand on se regarde avec amour. J'ai besoin de voir dans les yeux de mon frère ou de ma sœur les sentiments d'amour à mon égard, les sentiments d'amour que j'ai à son égard. Vous me suivez? Voilà ce que l'homme a fait. Mais Dieu, je reviens à Élie, Dieu prenait soin de son serviteur matin et soir. Dieu l'a nourri. Dieu a pourvu à ses besoins. Élie a expérimenté la bonté de Dieu et les compassions de Dieu. Élie mangeait la viande que les corbeaux lui amenaient et il buvait de l'eau du torrent. Il avait tout sur place. L'eau et la viande. Il était nourri par Dieu, à cause de la bonté de Dieu pour lui. Mais bien aimé, c'était juste une entrée. Après, nous rentrons maintenant dans les choses de Dieu. Nous y sommes déjà. Alors, se tenir à la brèche. J'ai partagé cela il y a quelque temps avec les chrétiens, je me souviens plus quand. Et je voulais poursuivre avec vous par rapport à la brèche. Et la lecture que nous allons faire, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22. Et à partir du verset 30, voilà ce que Dieu dit dans un moment délicat du peuple de Dieu. Dieu disait qu'il cherchait un homme, il voulait qu'il y ait des hommes qui se lèvent pour se tenir à la brèche. Il dit, le peuple du pays, à partir du verset 29, vous y êtes ? Nous faisons la lecture. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines. Voilà ce que Dieu dit. Et opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Il y avait un laisser-aller, et là Dieu dit ceci, le peuple du pays se livre à la violence. Et ensuite, le verset 30, il dit ceci, je cherche, Dieu qui dit cela, il dit je cherche parmi eux, non pas ailleurs, non pas dans un autre peuple, mais il dit je cherche parmi eux. Cela nous montre que Dieu, même si son peuple se conduit mal, mais Dieu malgré tout cherche au milieu de son peuple, parce que Dieu ne mélange pas tout le monde. Ce n'est pas parce que certains ou peut-être d'autres marchent de travers que c'est tout le peuple qui marche de travers. Dieu dit malgré cela, malgré certains, ils vivent comme ça, ils sont comme ça, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Et la première des choses que Dieu dit, cet homme que je cherche, c'est-à-dire c'est un homme qui est déjà au travail. Et dans tous les temps, quand nous lisons les Écritures, nous constaterons toujours Dieu, au moment où on disait, l'adversaire disait, c'est fini, le peuple de Dieu c'est fini, c'est à ce moment-là que Dieu dit, tiens, c'est pas fini, j'avais gardé de côté celui-là ou celle-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu des prophètes, des prophétesses qui se sont levés dans l'Ancien Testament. Et Dieu, comme dans le livre des Juges, toujours, quand le peuple désobéissait, Dieu utilisait l'ennemi pour venir le corriger. Et une fois que le peuple, sous la correction de l'ennemi, que Dieu permettait, eh bien, quand l'ennemi allait trop loin, le peuple, il y avait au sein du peuple de Dieu de ceux qui criaient à Dieu, c'est-à-dire qui élevaient un mur. Et quand vous élevez un mur, sur ce mur-là, vous mettez le mur de la prière, le mur de l'intercession. En Israël, les Juifs vont au mur des lamentations. C'est un mur qui a été construit depuis, selon ce qu'il est dit, le temple de Salomon. Et ils y vont comme ça, ils font des prières, et ils mettent des petits bouts de roquettes, des papiers entre les fentes des rochers, et ils prient comme ça, ils sont comme ça à faire leur rite comme ça. Mais le mur que Dieu veut que nous élevons, imaginez-vous que chacun d'entre nous, nous nous levons ensemble dans la prière, dans un même esprit, un même amour, un même désir, même sentiment. Est-ce qu'il y aura de la place pour autre chose ? Non ! Nous serons comme les écailles du crocodile, bien resserrés, unis, dans l'amour, dans la persévérance, dans le combat. Il n'y a pas d'espace pour autre chose. L'air ne peut même plus passer. Eh bien, quand Dieu voit, comme les sauterelles, je vous le disais tout à l'heure, quand vous les voyez, il y a une telle unité, et c'est parce qu'ils sont unis qu'ils font autant de ravages. Mais une sauterelle, vous l'écrasez, c'est fini. Mais l'unité, ils sont ensemble, ils bougent, ils vont ensemble. Quand ils arrivent quelque part, ils atterrissent ensemble, et ils font une ravage ensemble. Eh bien, c'est ça le chrétien. Si l'Église aujourd'hui, nous étions, je ne dis pas que nous ne sommes pas unis, attention, mais si nous étions unis comme Dieu le voudrait, je peux vous dire, laissez-moi vous dire une chose, parce que j'ai l'impression que, à force d'entendre parler de ce virus, c'est le virus qui nous met, on va dire, en quarantaine, qui nous fait peur. On n'ose même pas prononcer une parole de foi. On n'ose même pas dire ce que je vais dire à l'instant. Si nous étions unis, l'Église, et si nous étions unis dans la prière, nous serons comme une muraille qui fait barrage, non pas pour nous, mais pour notre pays. Si nous étions unis, si nous étions conscients de notre position, de notre, on va dire, de ce que Dieu, je le disais tout à l'heure, l'Église, c'est la main de Dieu sur la terre. L'Église, c'est la bouche de Dieu sur la terre. L'Église, ce sont les yeux de Dieu. L'Église, ce sont les pieds de Dieu sur la terre. Jésus n'est plus là physiquement, mais c'est à travers l'Église. Et si l'Église que nous sommes, comme je le disais, on élevait ce mur d'intercession, de prière pour le pays, pour notre nation, je peux vous dire, de la même façon que le virus est rentré, puisqu'il est bien rentré un jour, de la même façon il reprendrait la sortie pour repartir. Parce que le bien-être du pays où on est, la France, la paix, si la France est en paix, nous sommes en paix. Admettons qu'il y a la guerre dans notre pays, ne me dites pas vous allez sortir aller faire vos courses comme ça. Vous allez être obligés de subir les effets de cette guerre. Eh bien, si notre pays est en paix, nous vivrons aussi dans la paix. Mais l'importance que nous avons, le pouvoir que nous avons, nous ne l'utilisons pas à bon escient. Pour quelle raison ? Est-ce que l'Église est rentrée dans une forme de complaisance, d'autosatisfaction ? Est-ce qu'on se dit, voilà, on est bien, ou dirait comme l'Apocalypse, je suis riche, je n'ai besoin de rien, je ne fais pas d'efforts, avant de prendre une décision, je ne prie pas. Eh bien, une église qui ne lève pas un mur, qui n'intercède pas, qui ne prie pas, c'est une église qui est appelée au fur et à mesure à s'éteindre ou à prendre des décisions qui pourront emmener des conséquences terribles dans le futur. J'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas si vous vous êtes adapté au mode de fonctionnement. David s'est adapté au mode de fonctionnement pour transporter l'arche. Il a voulu faire comme le monde, mettre l'arche de l'Éternel sur une charrette et tirer par deux bœufs. Dieu mérite cela ? Non, Dieu ne mérite pas qu'il soit tiré par deux bœufs. C'était les Lévites qui devaient être à cette fonction. Mais David, puisqu'il faisait dans son élan de joie ou de zèle, Dieu a tué quelqu'un qu'il aimait, qui s'appelle Uzza. Et cela a créé de la tristesse dans le cœur de David. Mais Dieu ne veut pas que nous fassions comme le monde. Dieu veut que nous, l'Église, nous influençons le monde. Mes frères et mes sœurs, je parle à des frères et sœurs qui sont nés de nouveau. Des frères et des sœurs qui sont peut-être fatigués, qui ne prient plus, qui prient que juste comme ça un peu. Mais dans ces temps où nous sommes, nous avons, nous, l'Église, nous avons une mission. C'est de nous lever, de nous mettre à cette brèche et de dire ce que Dieu dit en disant à ce virus, en lui parlant, puisque est-ce que vous pensez, même si, on va dire, pendant que j'y pense, Dieu derrière cela, Dieu peut permettre que ça soit, ce virus soit là, il le permet, d'accord ? Il le permet. Est-ce que malgré que Dieu le permet, est-ce que c'est pas pour nous éprouver, pour voir, nous, ses enfants, comment nous réagissons face à cela? Quelle est notre attitude? La peur? Mettre le masque? Oui, il faut que nous le fassions. Il faut que nous protégions nos frères et sœurs. Et nous nous protégeons nous-mêmes. Mais est-ce que, en pratiquant ces gestes barrières, comme on dit, il faut que nous soyons là comme ça? Mais nous devons parler à ce virus. C'est un être vivant, non? C'est bien ça? C'est un être vivant, le virus. On peut lui parler. On peut lui dire, virus, on t'a surnommé Covid-19, mais tu vas te retirer comme tu es venu. Comment, quand vous mettez une barrière, une muraille, s'il y a de l'eau qui coule, s'il y a une inondation, les murs protègent les maisons. Eh ben, si l'Église se met en prière, élève un mur, non seulement pour elle-même, mais aussi pour le pays, Dieu peut agir d'une manière puissante, mes bien-aimés. Vous constatez que les hommes sont dépassés par un virus qu'ils ne voient pas. Ils peuvent parler pendant des années, des mois. Ça ne règle pas le problème. Le virus est en train de leur faire changer de couleur, changer de nom. On lui donne des noms, il mute ceci, il mute cela. Et nous, l'Église, nous sommes là, nous suivons les choses. On est là et on ne réagit pas. Mais on devrait se lever dans le jeûne, dans la prière, s'adresser au virus et lui dire « Tu vas te retirer au nom de Jésus. Tu en as déjà fait trop de morts. » Non seulement parmi nos frères et sœurs chrétiens, mais aussi parmi le monde. Il y a l'amour pour les frères et sœurs, mais l'amour aussi pour le monde. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que nous devons faire. Est-ce que nous le faisons? Non. Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Sommes-nous à la brèche? Est-ce que nous nous tenons à la brèche? Ou est-ce que c'est juste une partie, quelques-uns qui sont là, qui ont compris les choses, qui se tiennent à la brèche? Non. Normalement, c'est tous ensemble. C'est l'Église. Et si nous n'avons pas été habitués à prier, ce n'est pas maintenant que nous allons nous mettre à prier. La prière, c'est un exercice. Ce n'est pas quand tout va mal, on va dire « je vais prier maintenant ». Non, c'est quelque chose que tu faisais avant. Tu étais assidu. Tu étais à fond dedans, et quand l'épreuve est là, ça ne fait que te renforcer encore plus à prier. Mais celle et celui qui ne prie pas, qui ne priait pas, au moment de l'épreuve, s'il se met à prier, ça sera juste une prière de 5 minutes. Ça sera pas 1 heure, 2 heures de prière devant Dieu. Et encore moins une nuit de prière. Il dit ceci, « Il cherche un homme qui se tient à la brèche. » Un homme qui élève un mur, un homme qui se tient la brèche devant moi, en faveur de qui? En faveur du pays. En faveur de notre pays, la France, Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche et qui élèvent un mur. Où sont ces femmes et ces hommes ce matin? J'en vois 1, 2, 3, 4, je vois les mains qui se lèvent parce que je ne dis pas que vous étiez en train de dormir, mais vous me suivez de très près, j'ai compris. Mais je sais que dans votre cœur, il y a la main du cœur qui se lève, qui dit « Seigneur, oui, sans rien dire à personne, je suis là, je prie. Je ne sais pas trop comment prier, est-ce que je dois subir ou est-ce que je dois prendre autorité ? Mon frère, ma sœur, Dieu nous a donné un pouvoir que Jésus, la Bible dit, l'Éternel dit, un seul mettra en fuite 1000. Un seul des enfants d'Israël pouvait mettre en fuite 1000 ennemis. Un seul. C'est incroyable. Alors, Dieu dit, je cherche un homme. Et cet homme, on va aller dans le livre de Jérémie, après je vais le temps. Jérémie. Non, pas Jérémie, Néhémie, pardon. Néhémie. Qui connaît Néhémie? D'accord. Le livre de Néhémie, pour ceux qui ne voient pas où se trouve ce livre, c'est après Esdras. Et vous aidez votre sœur ou la personne qui est à côté de vous, qui a du mal à trouver. Voilà. Néhémie, chapitre 1er. Comment le monde, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église doit parler, c'est la bouche de Dieu sur la terre. Et comment entendons-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est Romains chapitre 10, c'est l'apôtre Paul qui disait cela aux Romains, à l'Église de Rome. Et il dit, comment entendons-ils parler s'il n'y a personne qui prêche l'Évangile? Néhémie chapitre 1er, voilà un homme qui a décidé de se tenir à la brèche. Et non seulement se tenir à la brèche, mais il fit ce que l'Éternel demandait à travers Ézéchiel. Néhémie chapitre 1er, verset 2. « Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda et les questionnaient au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. » Ah voilà, Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur. C'est-à-dire, il dresse un tableau catastrophique et de l'opprobre. Voilà ce que le compte rendu, il dit, les murailles de Jérusalem sont en ruine. Jérusalem a été construit et tout autour, il y avait une muraille qui protégeait la ville de Jérusalem. Et là, ceux qui font le compte-rendu à Néhémie lui disent « Les murailles de Jérusalem sont en ruine. » C'est-à-dire, il y a une brèche qui est faite. Et il dit « Et ses portes sont consumées par le feu. » L'ennemi a opéré deux brèches. Il a, à travers la muraille et à travers la porte. Et vous savez, dans le temps, il y avait une porte par laquelle on entrait et on sortait. Alors, une fois que la brèche, elle était faite par cette porte, il n'y a plus de restrictions, comme on dit. Il y a une liberté, ça rentre et ça sort. Eh bien, quand l'ennemi faisait cette brèche, la muraille, les murailles de Jérusalem, les portes étaient consumées par le feu. Lorsque Néhémie, au verset 4, lorsque j'entendis ces choses, lorsqu'il entendit ces choses, on lui a apporté ces nouvelles, regardez sa réaction. Je m'assis. Salla, comme on dit, scié sur place. Les nouvelles qu'il a eues de Jérusalem, la ville de son cœur, la ville de l'Éternel, Jérusalem, capitale d'Israël, Jérusalem. Jérusalem, tant de fois j'ai voulu te rassembler comme une maman poule rassemble ses poussins sous ses ailes, dit Jésus, en hauteur de Jérusalem, il montait sur l'annon, Hosanna au plus haut des cieux, etc. On l'acclamait et il s'arrêta, il regardait Jérusalem de loin, il dit Jérusalem, Jérusalem, tant de fois j'ai voulu te rassembler, toi qui tues les prophètes. Et là, c'était en ruine. Néhémie, après avoir entendu cette nouvelle, il s'assit. La nouvelle l'a mis assis. Et en étant assis, il fait une deuxième chose, naturellement, parce qu'il aimait Jérusalem, il aimait la ville où l'Éternel, Dieu, pour son peuple, il dit « Je pleurai ». Il se met assis et il se met à pleurer. Voilà ce qui était en lui dans ses entrailles. On a touché à la ville sainte. On a touché à ce qui appartenait à Dieu. En lui, il y a une réaction. C'est-à-dire, quand nous entendons ce qui est en train de se passer dans notre pays, si nous n'avons pas une réaction qui nous pousse à nous asseoir, à réfléchir, à dire « Mais Seigneur, comment veux-tu que nous réagissions face à cela ? Si nous ne pleurons pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne pleures pas en entendant les centaines de morts qui chaque jour, et quand tu fais le calcul, en une semaine, ça fait beaucoup de gens qui partent. Si Dieu ne voit pas en nous ce sentiment-là, je m'assis, dit Néhémie, je pleurai et je fus plusieurs jours. Dans quoi ? Dans la joie, dans la désolation. Et tout cela l'emmena à faire une chose, il arrêta de manger. Il se mit à jeûner et il se mit en prière. Voilà, Néhémie fait sa part. Il a une attitude qui plaît à Dieu, qui montre à Dieu, oui, je suis désolé, je suis triste d'entendre ces nouvelles. Je me mets à jeûner, je me mets à prier devant le Dieu des cieux. Verset 4. Je dis, il exprime sa prière à Dieu. Il dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, je vous le disais lors de la Sainte Cène, et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observe tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux, vous avez vu, les oreilles, les yeux, nous sommes les yeux de Dieu, nous sommes les oreilles de Dieu, nous sommes la bouche de Dieu sur la terre, l'Église j'entends. Il dit que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Je cherche un homme qui élève un mur et qui se tient la brèche, la prière. Il dit, écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il dit pas « moi », il dit « moi », mais aussi « nous avons péché ». Nous t'avons offensé. Vous avez vu que depuis qu'il a commencé à prier, il s'est humilié. Parce que avant de se tenir à la brèche, il faut déjà s'humilier, se repentir. Dieu ne mettra jamais quelqu'un en prière si la personne elle-même ne s'est pas avant humilié, repenti. De n'avoir pas été à cette brèche, ni n'avoir pas dressé cette muraille de la prière. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé le commandement, les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Et il dit ensuite, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. C'est ce que Dieu avait dit à travers Moïse à Israël. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai. Et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour vous y faire, pour faire y résider mon nom, dit l'Éternel. Et quand nous tournons la page, regardons un petit peu l'attitude, je termine dans quelques minutes, regardez un petit peu l'attitude de Néhémie. Au verset 13. Verset 11, « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur, vous avez vu, au cœur, de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine. Il alla voir, constater les dégâts, les brèches et les portes consumées par le feu, ce qu'il avait reçu comme information. Il s'est levé lui-même, il s'est déplacé et il a fait un constat lui-même. » Mais bien-aimés, derrière tout ce que je suis en train de partager avec vous, c'est comme si Dieu veut, cherche à secouer ses enfants. En disant, réveillez-vous, cherchez-moi pendant qu'il est encore temps. Mettez-vous, arrêtez, c'est comme si tout ce que nous vivons amène comme un, ça nous abasourdit, comme on dit. C'est lourd. Ça nous endort, ça peut nous mettre dans un état de sommeil, parce que c'est lourd à porter. Vous savez, quand la mort frappe quelque part, mais jour après jour, la mort c'est quelque chose de terrible, c'est une personne la mort. Et quand elle frappe un pays, il y a comme une atmosphère lourde, ténébreuse, quelque chose de pas normal, de spirituellement, je ne sais pas si vous le ressentez, mais sur notre pays, il y a comme quelque chose de lourd qui est pesant. Et si nous, les chrétiens, si nous, les enfants de Dieu, cette lourdeur, ce voile ténébreux de la mort qui est en train de passer dans notre pays, nous ne veillons pas, nous ne nous levons pas, nous ne crions pas à Dieu, eh bien nous allons être aussi comme ça. Ça va nous mettre dans un état de lourdeur spirituelle. Parce que quand la mort frappe, quand la mort arrive quelque part, je peux vous dire qu'il amène quelque chose de terrible. Au verset 17, « Je dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes ? Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez !» Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. « Viens, ma sœur, mon frère, allons-y. Venez, rebâtissons la muraille. » Dieu cherche un homme. Dieu cherche des frères et des sœurs de ses enfants qui se lèvent, qui font un constat, qui s'humilient, qui demandent à Dieu miséricorde et grâce et qui se lèvent, qui disent « Seigneur, nous voici. Nous voici. Sers-toi de nous. Nous reconnaissons nos manquements, nos faiblesses, nos décisions prises à la hâte. Nous reconnaissons que cela nous a emmenés dans des travers. Mais nous sommes devant toi ce matin. Nous voici. On se lève. Même cœur, même esprit, même amour, même sentiment. Pourquoi faire ? Pas pour nous uniquement, mais pour le pays. Dresser un mur. Il dit « Venez, dit Néhémie. » Néhémie, c'était un réformateur, un fédérateur, un bâtisseur, un constructeur. Il dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. C'est-à-dire, nous ne serons plus là à vivre dans la peur. Il y a une brèche, les portes sont consumées, l'ennemi peut entrer et sortir, fait comme il veut. La Bible nous dit que l'ennemi, l'adversaire, est comme un lion. Qu'est-ce qu'il fait ? Il rôde, il cherche la faille, il cherche la brèche. Mais la Bible nous dit que c'est avec une foi ferme que nous devons lui résister. Et il fuira, non pas près, mais loin. Et l'Église, nous devons nous lever, nous tenir à la brèche, pour dire à ce virus, nous habitons en France, nous aimons notre pays, il est bon notre pays. Il est bon que nous habitions ici, mais en ce moment, il y a une stérilité, il n'y a pas une liberté, il y a une privation, il y a une frustration, il y a les hôpitaux psychiatriques qui sont débordés, autant que la réanimation. De quoi ? De gens qui sont fragiles, qui pète, comme on dit, qui perd la tête. Et qu'est-ce qui se passe, nous les chrétiens ? On est là, on compte les décès, on regarde, on assiste à ce que l'adversaire fait, mais nous pouvons nous lever, nous dresser comme un mur, comme une muraille, et faire barrage, et même barrage ensemble. J'ai pas regardé le match de rugby hier, mais quand le pacte français, on met que des hommes un peu costauds, les ailiers sont comme ça, et ceux qui sont dans le pacte là, c'est des gars qui font 120 kilos, 130 kilos. Et je peux vous dire que quand ils, ensemble, vous entendez, on y va, et ils foncent comme ça. Et je peux vous dire, si l'Église est comme ça, ensemble, unie, vous voyez, ils se tiennent comme ça. C'est important, ensemble. Et ils foncent ensemble comme ça pour faire reculer le pacte adverse. Et normalement, l'adversaire, il doit reculer quand l'Église se lève dans l'unité et redresse un mur, la prière, protection, et pour faire reculer ce virus loin des frontières de notre pays. Vous dites amen ? Cela ne peut se faire que si nous nous levons ensemble. Puisque Jérémie dit « Venez !» Allons, rebâtissons la muraille. Et regardez ce qui se fait. Je finis. Et je leur racontais, au verset 18, « comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. Quand vous vous levez, quand on se lève et qu'on se met, qu'on dresse, qu'on élève un mur et qu'on se met à prier, je peux vous dire, Dieu est avec nous. Dieu nous assiste. Dieu nous assiste. Et il dit ceci, la bonne main de Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, regardez encore une fois, qu'est-ce qu'il dit? Levons-nous et bâtissons. Levons-nous. On a l'impression qu'il disait, mais allez, on y va. Allez debout. On a trop subi. On a trop encaissé. Maintenant, il faut se lever. Il faut utiliser les armes offensives. On a résisté pendant des années, pendant des mois. On a subi les affronts de l'adversaire. Maintenant, levons-nous et attaquons maintenant. Un chrétien qui subit, à un moment donné, il lâche prise. Mais Dieu nous a donné des armes défensives et des armes offensives. Et vous verrez comme dans les armes offensives, c'est quoi? C'est la prière. Et c'est quelque chose que nous négligeons. Je parle en tant qu'église. Nous négligeons cela. Et tant que nous allons le négliger, je parle ensemble, on ne fera pas le poids. Il y aura des brèches successives. Vous comprenez? L'adversaire passera par une situation pour emmener de la tristesse dans les cœurs, pour diviser les cœurs, pour faire quitter l'église des personnes. Des coups de fil seront passés pour dire non, n'y va plus, ne fais pas ceci, ce sont ceux-là. Ben voilà ce qu'il fait. Voilà les brèches qu'il met en place. Et nous, nous sommes là à encaisser. Dieu n'a pas établi l'église pour encaisser. Dieu a donné à l'église une autorité, un pouvoir de lier sur la terre, c'est lié dans le ciel. De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous dites amen? Et c'est pour cela que nous devons nous lever. Chacun à son poste. Chacun chez soi, et même non seulement chez soi, mais quand Dieu nous donne de nous réunir ici, comme ce matin, oui c'est un culte, mais des fois ce serait bien que nous rentrons dans la prière, que nous nous levons ensemble, nous disons Seigneur, nous nous levons au nom de Jésus, non pas pour nous, mais pour notre pays. Alléluia. Et nous faisons reculer ensemble l'adversaire loin des frontières, parce que la paix de notre pays dépend de nous, de notre paix. Si nous, le pays est en paix, nous serons en paix. L'apôtre Paul le dit à Timothée de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions vivre une foi tranquille. Aujourd'hui, notre foi est bousculée. Qu'avons-nous fait? C'est parce que nous n'avons pas intercédé. Nous avons peut-être passé notre temps à nous disputer, à nous regarder, à tomber dans les habitudes, à nous conformer, et on n'a pas pensé au futur. Une église qui n'a pas de vision, qui ne se projette pas dans le futur, c'est une église qui est appelée à mourir tôt ou tard. Faute de vision, mon peuple périt. Quand il n'y a pas de vision, quand on n'a pas de projet sur le long terme, qu'est-ce qu'on a? On travaille au jour le jour? On se dit voilà, on est bien, ça nous suffit d'être bien, mais si ça vous suffit, ça ne me suffit pas. Et nous devons avoir un état d'esprit, non pas des zélés excessifs, non pas des révoltés, mais être animé d'un zèle, un saint zèle, si je peux dire ainsi. Il faut qu'on soit animé d'un zèle qui plaît au Seigneur. Je finis la dernière lecture, et on y reviendra par la suite. Verset 19. Vous voyez, quand on se lève pour bâtir, regardez ce qui se fait. Sambala, le Aronite, le Horonite, merci, j'ai fait exprès. Le Horonite, Tobija, le serviteur Ammonite, et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, qu'est-ce qu'ils firent? Ils se moquèrent. Des moqueries, nous en aurons, c'est pas un problème. Il dit, ils se moquèrent de nous, et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Au verset 20, et je leur fis cette réponse. Regardez, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Mais bien-aimés frères et sœurs, si nous ne nous mettons pas en action, si nous ne nous levons pas, Dieu ne peut pas nous assister. Dieu va nous assister quand il voit, il dit « Je cherche un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche. » Là, Dieu nous assiste. Il voit que nous sommes en action. Et il dit ceci, « Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. » Alléluia ! Je dis « Amen ». Et je finis là comme ça. Et en finissant comme ça, ça me donnera l'occasion d'y revenir. Parce que derrière ce « je me tiens », je cherche un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche. On va se mettre debout quelques instants, mes bien-aimés. Et Dieu pouvait dire à son peuple, Dieu pouvait dire ainsi à son peuple, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, » c'est Dieu qui dit ceci, « Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, » c'est ce qu'a fait Néhémie, « prie, » c'est ce qu'il a fait, « et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. » Vous vous rendez compte ? Si mon peuple, face à l'épreuve, aux difficultés, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Il dit, s'ils rentrent en eux-mêmes et qu'ils disent, nous avons péché, comme a dit Néhémie. Cela se trouve dans 2 Chroniques 7, verset 13. Et 2 Chroniques 6, verset 37 pour ceux qui prennent des notes. Restons un instant devant Dieu.